Bienvenue à tout le monde. Je pense que cette fois, on peut y aller. Aujourd'hui, ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jean-Yves. Est-ce que tu veux peut-être commencer par une petite introduction en quelques mots pour que les gens puissent te découvrir?
Bah avec plaisir. Bah déjà, premièrement, merci aussi de nous avoir proposé cette invitation à participer bah justement à cet échange organisé par Coin Tribune via CMC. C'est une première pour nous et puis on serait ravis de revenir un petit peu discuter de différents sujets relatifs à l'écosystème et également à Rain. Donc ça, c'est super. Merci encore. Et pour la petite présentation, bah écoutez, moi, c'est Jean-Yves Guillou. Je suis un des cofondateurs de Rain. Précédemment, c'était le projet Act.io qu'on a rebrandé récemment en fin d'année dernière. Et en effet, bah, moi, je suis rentré dans l'écosystème maintenant il y a quelques années, puisque le projet est maintenant à 5 ans. Et l'idée, bah, en tout cas, moi, ma compétence métier historique, c'est plutôt la finance de marché. Et donc, notre mission chez Rain, bah, c'est d'apporter des solutions innovantes de placement, d'épargne, en utilisant justement les nouvelles technologies comme la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc, c'est un petit peu le thème du jour. Et donc, je suis ravi de pouvoir débattre, ou du moins discuter autour de ces sujets-là avec toi aujourd'hui pour creuser un petit peu le sujet et puis mettre des perspectives aussi sur ce qui va se passer dans les années à venir, puisque c'est vraiment l'enjeu actuel aujourd'hui, je pense, dans, on va dire, l'utilisation de la blockchain ou de l'IA pour justement proposer une transition d'une finance traditionnelle vers une finance complètement digitalisée. Donc voilà, on est dedans.
Ouais, vers la finance de demain, tout à fait.
Exactement.
Et ben pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Émile, Émile Stantina, je suis en charge de la partie éditoriale pour Coin Tribune, la partie française et aussi la partie anglaise, ainsi que Cointelegraph France. Voilà, donc on vous propose aujourd'hui ben, en binôme avec Jean le sujet suivant. Donc ça va être les nouvelles technologies et c'est comment l'IA et la blockchain révolutionnent un peu l'épargne de demain. Voilà. Donc ça, c'est les problématiques. Comment arriver à déplafonner les coffres d'épargne par l'utilisation des nouvelles technologies? Donc comment on y arrive de par la blockchain? Comment on y arrive de par peut-être le minage? Comment on y arrive de par l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'émulsions autour de tout ce qui est les nouvelles technologies, surtout l'intelligence artificielle. Du coup, aujourd'hui, Jean, tu vas être là pour pouvoir un petit peu démystifier ce sujet et puis nous
Avec
dire un
plaisir.
petit peu. Comment justement dans l'épargne, cette nouvelle technologie, on l'implémente pour pouvoir bah justement créer la finance de demain, comme on le disait, quoi. Voilà.
Exactement.
Alors, bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à interagir sur le chat. Voilà, si vous avez des questions, on pourra peut-être pas tout lire les commentaires, mais en tout cas, si j'arrive à en catcher une ou deux, eh bien, on pourra aussi les prendre en live et interagir avec vous. Donc, du coup, aujourd'hui, on va partir sur deux grandes parties. Donc, on va tout d'abord parler des nouvelles technologies. Mais dans un second volet, on va plutôt parler de la régulation. On restera ensemble autour d'un peu moins d'une heure, 45 minutes. Et voilà, on va peut-être rentrer directement dans le sujet, si tu veux, Jean.
Oui, bien sûr.
Voilà, on a parlé un petit peu des problématiques qu'on voulait énoncer aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut peut-être faire déjà un tour d'horizon sur ce qui existe aujourd'hui pour le client, je ne sais pas si on peut dire le client, mais en tout cas la personne qui souhaite investir. Bon, avant qu'on commence, je vais peut-être faire un petit disclaimer. Voilà. Ce soir, on est là ensemble pour discuter, pour échanger. Donc, on n'est pas là pour vous donner des conseils en investissement. Ce n'est pas notre but avec Jean et moi. On est là pour partager notre expertise, pour répondre peut-être à certaines questions, pour démystifier un petit peu les sujets complexes et pour vous mettre en avant, voilà, comment la technologie, elle peut dépasser un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre quotidien. Mais on n'est vraiment pas là pour vous donner des conseils en investissement. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et donc, voilà, je proposais un petit tour d'horizon de ce qui existe aujourd'hui sur le marché quand on souhaite investir. Quels sont les basiques? Bon, on a cité ensemble, voilà, on connaît tous le livret A, etc., etc. Mais est-ce que tu veux faire un petit peu le tour des solutions d'épargne traditionnelles?
Bah volontiers, hein, Émile. Bah écoute, pour l'instant, en fait, ça dépend dans quelle position on se situe aussi lorsqu'on parle de ces sujets-là. Nous, en tout cas, chez Rain, avec Gaël, le fondateur de Rennes, on est parti d'un postulat de départ à la genèse du projet. C'était en effet de pouvoir apporter finalement des solutions plus, on va dire, plus élaborées, plus innovantes, plus compétitives sur sur les deux volets, les deux grands volets lorsqu'on parle en fait, on va dire, quand on a un rapport à l'argent par rapport à ses économies, c'est soit l'épargne classique, soit l'investissement, le placement, qui sont en fait deux environnements complètement différents, puisqu'on comprend bien que derrière l'épargne, en fait, on vient tout simplement mettre de côté un certain montant de capital dans le but d'obtenir des intérêts, mais sans mettre à risque finalement son capital. Donc ça, c'est plutôt la partie épargne. Et puis après, on a la partie placement, où là, finalement, on s'expose, même sur l'épargne, hein, une exposition au risque, mais on vient prendre un risque supplémentaire sur les placements, puisque que ce soit à travers finalement l'investissement immobilier, l'achat finalement d'un capital immobilier, que ce soit à travers des assurances vie, des fonds, là on vient se positionner finalement sur la valeur présente passée d'un actif pour envisager l'appréciation de cet actif dans le futur. Donc il y a une expectation de spéculation sur lequel finalement il y a quand même un risque associé, puisque l'actif en lui-même peut être finalement dégradé, hein, que ce soit même dans l'immobilier et que ce soit sur des dettes obligataires, que ce soit sur des actifs type actions. Voilà, donc là, ce n'est pas le même rapport lorsqu'on est dans le placement. Voilà, donc on a deux volets, on a l'épargne, on a les placements, et ensuite ça dépend dans quelle, on va dire, dans quelle zone géographique on se situe, puisque en effet, on va dire que la personne, on va dire, classique en France, elle va avoir des solutions autour de certains livrets plafonnés par l'État ou du moins réglementés par l'État. Il y a aussi d'autres types de placements un petit peu plus structurés qui sont proposés par les banques. Et ensuite, on rentre plutôt dans des placements ou des fonds de gestion. Et là, il y a un rapport au risque, comme je l'ai évoqué, par rapport au placement. Voilà. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui serait basé en France. Maintenant, si on est allemand, portugais, européen, j'ai envie même dire chinois, indien ou américain, les offres peuvent varier grandement, puisque concernant l'épargne, en tout cas, en tout cas l'épargne et aussi la monnaie de placement, on a un rapport aussi par rapport à ces banques centrales qui chapeautent et puis qui régulent, ou du moins qui gouvernent aussi justement tous ces produits-là. Donc en Europe, on est exposé à l'euro, donc on a un rapport à l'euro, et on est exposé ensuite par rapport à des produits, on va dire, régulés par les États. Donc en France, c'est un petit peu plus facile puisque l'audience est plutôt française aujourd'hui, mais en France, en effet, on peut bénéficier justement d'un accès à l'épargne via le livret A. Il y a différents livrets qui existent, qui sont déplafonnés, on va dire, en termes de fiscalité, mais qui sont plafonnés en termes de quantité de placement. Donc on a une limite par rapport à l'épargne, ce qui pousse finalement certaines personnes qui ont des revenus, on va dire, qui peuvent dépasser justement ces plafonds-là, à devoir aussi trouver des solutions d'épargne autres que ces produits-là. Donc, nous, on vient un petit peu se positionner dans cette, dans cette, dans cette,
Dans ce
dans cette,
créneau.
voilà, dans cette orientation-là, puisque tous les outils finalement ne permettent pas de rencontrer finalement les besoins. Et surtout, ce qu'on a identifié, et c'est vrai que là, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que aujourd'hui, les banques sont plutôt au service, finalement, commercialement parlant, au service de la vente de produits d'assurance ou autres produits qui permettent de faire de la marge pour pour les banques. Par
Pour
exemple,
les banques.
vendre des téléphones, genre des abonnements de téléphone, vendre des surveillances je sais pas, de protection de son appartement, des choses comme ça. Mais on a pas mal de difficultés finalement à pouvoir discuter directement avec son conseiller sur vraiment quelle stratégie adopter quand on parle d'épargne et de placement pour finalement tout simplement anticiper les besoins futurs ou du moins arriver à avoir une vraie indépendance financière ou aller au bout de ses projets lorsqu'on parle d'épargne et de placement. Voilà, donc ces solutions-là existent. Bien sûr, lorsque on détient en général des capitaux plus importants, puisqu'on va s'orienter vers on va avoir des conseillers, on va dire, on va changer de conseiller. Plus on va gagner d'argent, plus on va changer en gamme de conseiller, plus on va avoir finalement un conseil mieux adapté, on va dire, par rapport à ces capitaux-là, puisque les banques ont tout intérêt à préserver leurs clients et leurs capitaux, puisque elles font travailler l'argent derrière, donc elles font de la marge avec ça. Mais quand bien même, pour obtenir des conseils, on va dire, vraiment précis et vraiment qui font la différence, là, on doit même s'armer, même pour les gens qui ont un certain capital, par exemple, de personnes spécialisées dans la défiscalisation ou dans les montages financiers complexes à travers des sociétés. Donc, on comprend que finalement, la partie métier de la banque, qui est finalement d'obtenir un vrai conseil par rapport à son argent, l'utilisation qu'on en fait au quotidien, et puis de construire finalement une épargne adaptée finalement à l'expérience de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on démarre une relation avec sa banque, en général, on est autour de la vingtaine d'années, on n'a pas encore engagé finalement sa carrière, on est en règle générale encore dans les études, puis après, on augmente un petit peu ses capitaux au fil des années, au fur et à mesure de sa carrière. Voilà, on a besoin un petit peu de se projeter, mais c'est un petit peu dommage d'attendre 30, 40, 50 ans même pour pouvoir commencer à élaborer des plans qui souvent prennent quelques années pour finalement pouvoir entrevoir peut-être un complément de retraite ou peut-être même anticiper son départ en retraite, puisqu'on a suffisamment bien construit finalement son épargne au fil des années. Ça, c'est un modèle beaucoup plus anglophone. C'est vrai que les anglophones ont déjà cette culture-là depuis de nombreuses années. Hein. Un Américain ou des Anglais, eux, ils vont tout de suite déjà s'exposer de manière beaucoup plus importante dès le jeune âge, par exemple, dans les marchés financiers, puisqu'on sait que les cycles long terme des actions sont au-delà des 10-12% de rendement annualisé lorsqu'on les lisse sur plusieurs années, à travers les dividendes, à travers l'appréciation des actifs. Et c'est vrai que en Europe, ou du moins dans le vieux continent, on est beaucoup plus sensible au risque et on a beaucoup moins d'appétence à vouloir positionner finalement une épargne qui est construite mentalement chez nous comme je ne veux pas mettre en risque mon capital, je veux juste être sûr que ce capital soit là quand j'en aurai besoin. Donc, les gens se disent, je préfère limite même mettre du cash sous le matelas parce que finalement, je sais qu'il est là. Alors qu'en fait, les pays anglo-saxons, eux, sont déjà dans une logique beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus agressive en termes d'épargne, puisque eux, ils n'ont pas le même système de retraite, le même système de protection de l'emploi. Donc eux, ils se disent, voilà, j'ai tout intérêt à construire mon épargne directement au travers des marchés financiers. Donc la logique n'est pas du tout la même. Nous, on pense qu'aujourd'hui, des entreprises, par exemple, comme Nutmeg ou Robinhood, dans les pays anglo-saxons, c'est des entreprises qui ont des fortes croissances, puisqu'ils proposent justement des thématiques de placement à travers finalement des durations. Est-ce que vous avez besoin de votre argent à 1 an, à 2 ans? Si, est-ce que c'est pour dans 20 ans? Et finalement, on va construire, on va séparer finalement les capitaux qu'on va mettre jour après jour, mois après mois dans son épargne, en fonction justement des besoins de l'utilisateur. Donc c'est déjà beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons et en Europe, c'est quasiment inexistant, en parallèle finalement de conseils inexistants auprès des banques. Et donc c'est là où finalement nous, dans notre approche chez Rain, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à apporter en termes d'offres, à la fois en termes de conseils. Donc là, c'est plus qui va toucher à l'intelligence artificielle, on peut en reparler. Et puis après, il y a les technologies qui permettent de pouvoir apporter des solutions innovantes sans passer par, on va dire, le système centralisé des banques. Donc, je rappelle, hein, banque centrale qui impose un certain taux directeur, ça a fait beaucoup parler ces derniers temps, notamment avec la hausse des taux. Donc, à la fois, ça permet d'avoir une épargne plus performante, mais ça freine aussi l'accès au crédit. Donc, ça, c'est la centralisation, la banque centrale qui va donner finalement une impulsion de politique monétaire vis-à-vis par rapport à des problèmes d'inflation qu'on a connus ces dernières années. Et puis ensuite, s'ajoute une couche gouvernementale qui, elle, vient finalement réguler le marché de l'épargne en proposant un taux, on va dire, dicté finalement par le ministère des Finances, par exemple en France, c'est Bercy, et qui vient lui dire, voilà, je protège un certain taux d'épargne sur le livret A. Alors certes, c'est sûr, il le maintient dans le temps et il le protège, mais finalement, quand on analyse finalement le revenu qu'on devrait avoir par rapport à un rendement classique type livret A, il devrait être supérieur à celui qu'on a aujourd'hui. parce qu'ils essayent de lisser un petit peu la courbe. Mais donc, on sent bien quand même qu'on est régulé, on est contraint quand même par un carcan de
Régulation,
gouvernance
ouais.
centralisée
Contrainte.
qui nous empêche finalement de pouvoir libérer totalement le potentiel de l'investissement, notamment quand on parle d'épargne, puisque on comprend bien que on vient déposer finalement des actifs en espérant que quelqu'un vienne les emprunter en retour d'avoir finalement un rendement de ces dépôts d'actifs. Et donc là, il y a déjà des mécaniques qui ont bien fonctionné jusqu'à présent à travers les blockchains et les protocoles décentralisés qui permettent de mettre à disposition justement des actifs en ayant en récompense finalement un certain nombre de yields qui proviennent de ces dépôts-là. Mais on voit bien que ces technologies-là sont juste naissantes. Elles ont proposé un premier modèle, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les modèles de demain et de venir finalement intégrer justement le monde réel à l'intérieur de ces protocoles-là et d'obtenir une meilleure efficacité qu'un schéma centralisé, puisqu'on serait non plus dépendant justement des décisions centralisées gouvernementales et surtout, on obtiendrait bien sûr des meilleurs rendements puisqu'on n'aurait pas besoin d'avoir toute une infrastructure. Une
On va
infrastructure. Ouais, on y viendra, mais en gros, c'est un
y
petit peu ça
revenir, ouais.
pour introduire le sujet. Voilà.
Bon, c'était une belle introduction. Merci beaucoup, Jean. Et donc, là, tu nous as dit quand même pas mal de choses, hein.
Ouais.
Donc, on a entendu que, voilà, peut-être que les personnes anglophones, ils avaient un attrait au risque un petit peu différent du nôtre.
Exact.
Nous, on va se focaliser un petit peu, voilà, sur la monnaie euro et sur la francophonie. Je pense que c'est plutôt notre ambiance du jour.
Exact.
Mais ça, en fait, ce qu'on peut voir du côté des États-Unis, ce qu'on peut voir du côté anglophone, ben, c'est justement peut-être un exemple pour nous.
Oui,
Donc c'est peut-être
exactement.
l'exemple de demain, tu vois, où en fait on pourrait avoir une aversion qui est la leur déjà aujourd'hui, tandis que nous on a une culture très conservatrice en disant ouais bon on y va petit à petit parce qu'on va quand même pas tout mettre dans le même panier, on va pas trop risquer, on
Bien
aime bien
sûr.
l'épargne et le
Et
saving, tu vois,
surtout,
donc ça
surtout,
c'est.
y a un changement de paradigme qui est quand même important. C'est que, bon, moi aujourd'hui j'ai 40 ans, mes parents, ou du moins les générations précédentes, ont vécu d'autres cycles économiques que ceux qu'on est en train de connaître aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une certaine, on va dire, si on parle des années 60, 70, 80, il y avait une plus grande facilité d'avoir accès aussi au crédit et on va dire à l'immobilier. Aujourd'hui, pour des primo-accédants, pour des jeunes, à la fois par la complexité on va dire de l'état des lieux, un petit peu d'inflation là aujourd'hui, quelqu'un qui serait sorti d'école, même une bonne école, qui gagnerait entre 3 000 et 4 000 euros par mois, par exemple, pour venir chercher un crédit en tant que primo-accédant, c'est quasiment mission impossible, notamment dans un marché de l'immobilier qui est en tension et qui est aujourd'hui très, très, très élevé. Donc, on comprend bien qu'aujourd'hui, le levier pour finalement générer une épargne à travers ce levier-là, aujourd'hui, est un peu limité. Donc, forcément, c'est aussi la jeune génération qui va devoir finalement construire son épargne de manière différente que ce que ça a pu être à l'époque de nos parents. Et donc, il va falloir aussi imaginer et proposer des solutions pour ce qui va se passer demain. Donc, on est obligé de s'adapter. L'adaptation, ça fait partie des choses normales de la vie. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver ces solutions-là et de les amener au grand public. Voilà.
D'accord. Donc, bah, moi, je veux quand même juste revenir sur un petit point, c'est que, bon, voilà, on va développer les produits de demain grâce aux nouvelles technologies. Jusque-là, on est bon. Mais si on parle un petit peu d'inflation, mais si on parle d'épargne, donc on se dit, OK, inflation, bon, bah, je perds un petit peu d'argent. Quand on sait ce que c'est l'inflation, voilà, le carburant qui passe à 2 euros, bon, bah, du coup, avant, ça valait 1. Mais ce n'est pas pour ça que votre salaire a doublé. En gros, c'est à peu près ça. Mais
Exactement.
qu'en est-il justement, parce qu'on a vu justement la mécanique des taux, où, oh, on a un petit livret A qui a augmenté, mais le livret A, il a augmenté, mais l'inflation, elle a augmenté de 7%, et encore, ils ont changé les méthodes de calcul, etc., etc. On ne vous la fait pas, ça se trouve, c'est plus que ça, on ne sait pas réellement. Mais les taux qui sont affichés, en fait, sont pas les mêmes. Du coup, la vraie question, c'est comment ça fonctionne? Comment on démystifie pour monsieur tout le monde, pour qu'il comprenne un petit peu, OK, bah, d'un côté, ça monte, on fait monter un peu les taux d'un livret A, mais ça, c'est mon épargne saving, mais en fait, de l'autre côté, je perds de l'argent avec l'inflation. Comment les banques centrales, elles régulent ça? Comment ça fonctionne, en fait? Simplement.
Alors, c'est deux choses différentes. Déjà, en effet, pour l'instant, l'inflation est à des niveaux assez élevés. Je veux dire, même si on regarde un petit peu l'inflation généralisée, qui sont communiquées par les différents, services, ministériels, aujourd'hui, avoir de l'argent exposé sur son livret A ne permet pas de gagner d'argent. Ça permet juste de ne pas, le détruire. Donc, c'est-à-dire que ça stabilise finalement les capitaux, puisque quand on a une inflation, au-dessus de 2,5, 3, voire 4%, et que le taux du livret A est à 3,5 ou 3%, bah finalement, ça revient à rien gagner du tout. Donc ça c'est un premier point. Après, l'inflation, ou du moins comment les banques centrales finalement maîtrisent finalement cette métrique-là. En effet, la mission numéro un d'une banque centrale, en tout cas pour celles qui sont basées en Europe ou dans les pays développés ou aux États-Unis, c'est de maintenir un taux d'inflation autour des 2%, justement pour éviter de partir dans des c'est les pires scénarios qu'on peut imaginer dans des modèles économiques, c'est d'avoir une inflation qui serait pas maîtrisable. C'est-à-dire que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Le prix augmente, donc les salaires doivent augmenter. Les salaires augmentent, donc ils ont plus il y a plus de pouvoir d'achat. Donc qui
Bon,
dit
d'achat.
pouvoir d'achat a plus de dépenses. Qui dit plus de dépenses et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il faut contrôler à la fois la masse monétaire en circulation, l'inflation. Et donc pour ça, il y a des outils à la disposition. L'outil le principal, ben, c'est forcément les taux, puisqu'on comprend qu'à partir du moment où les taux augmente, et ben finalement, ça va venir finalement plus stimuler l'appétence à l'épargne. Donc, les gens vont rester plus à rester sur à finalement à essayer de bloquer leur argent pour essayer finalement
Ouais,
d'économiser.
c'est
Et
ça.
finalement, c'est comme ça qu'on arrive un petit peu dans ces logiques très basiques d'économie à essayer de maîtriser l'inflation. Voilà. Donc, ça restreint à la fois le crédit, puisque les crédits coûtent cher. Donc, on va pas aller faire, par exemple, du crédit à la consommation. On va pas pousser le crédit. On va pas finalement venir fournir en liquidité à la fois les entreprises ou les particuliers avec de l'argent qui n'existe pas encore en espérant que dans le futur cet argent soit remboursé pour justement venir ajouter du cash dans le moteur économique alors que lui-même est déjà en surchauffe. Voilà. Donc ça c'est vrai que tant qu'on n'a pas réatteint cette zone des 2%, les banques centrales resteront avec des politiques restrictives, mais elles ont aussi en face quelque chose de bloquant, c'est-à-dire qu'à être trop restrictif, on risque de rentrer dans des scénarios inflationnistes. Et donc là, dans ces scénarios-là, on risque ensuite de rentrer dans des phénomènes qui sont à l'inverse déflationnistes. Et donc là, on va avoir d'autres problèmes. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a jamais vraiment une solution parfaite. L'idée,
Trouver le
c'est
juste
d'arriver à
milieu.
avoir un juste milieu. C'est un petit peu quand on conduit une voiture. En fait, on va essayer de rester autour des 3000 tours minute pour à la fois aller suffisamment vite à destination, mais en même temps, on ne veut pas utiliser de plein pour aller à la
Voilà.
destination. C'est un petit peu l'idée et finalement les stratégies des banques centrales. Voilà.
Belle image, tout à fait, c'est à peu près ça, ouais. Toujours un peu la jauge, garder
Voilà.
le bon niveau,
Exactement.
garder
Après,
le bon niveau.
c'est vrai que on parle beaucoup de ça, mais il y a certains pays qui n'arrivent pas par
Comme du
finalement
mal.
leur. Bah, disons que il y a des pays dont les banques centrales ont beaucoup souffert, et donc forcément, on peut mettre à mal justement ces dispositifs de banques centrales, puisque il y a pu y avoir des défiances dans certains pays où finalement, pour lutter contre l'inflation, les taux sont montés tellement haut que les monnaies ont subi des dévaluations importantes. Et
Ouais.
donc, on voit quand même qu'il peut y avoir pas mal de volatilité. Par exemple, cette année, sur la lire turque, on est quasiment à 58% de dépréciation par rapport au dollar. Et quand bien même on parlerait du Japon, en 4 ans, hein, depuis le Covid, depuis 4 ans, on a aussi quasiment 46% de dévaluation du yen par rapport au dollar. Donc, pour ceux qui souhaitent faire des vacances au Japon, bah, c'est le bon moment, par exemple. Mais on voit qu'il y a quand même énormément de volatilité, même sur les monnaies fiat. Puisque souvent on parle du Bitcoin, etc. Oui, est-ce que c'est une monnaie de réserve, oui ou non? Mais il y a de fortes volatilités qu'on n'avait pas connues depuis de nombreuses années sur les marchés de change, liées justement à ces stratégies des banques centrales et des taux qui sont appliqués. Voilà.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Ça, c'est naissant, ça augmente. Et du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, cette fois, c'est donc là, on a parlé un petit peu des banques traditionnelles, du système financier traditionnel. Et donc, nous, on veut discuter un peu de ce qui arrivera demain. Alors, moi, ma première question, c'est comment ces nouvelles technologies, déjà, elles pourraient révolutionner tout ce qu'on vient d'énoncer. tous les deux, tout ce qu'on vient d'énoncer tous les deux, comment ces nouvelles technologies, alors je ne sais pas si on le fait par layer, si on commence par l'IA et après l'intelligence artificielle, ou si après on va sur la blockchain, ou je pense qu'on peut faire plutôt par
Bah,
paquet, comment ces nouvelles
en fait, ça,
technologies,
en fait, ça
elles
se
viennent.
mélange. En fait, ça se mélange.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant. Pour revenir au basique, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, les grands sujets de demain, beaucoup en ont déjà entendu parler. On parle de tokenisation d'assets réels. Donc, pour les Français, en fait, c'est tout simplement tokeniser des assets qui sont dans le, je veux dire, des supports d'investissement qui sont présents dans l'économie réelle.
Oui, mais ça
Aujourd'hui,
veut
par
dire quoi,
exemple,
tokeniser?
eh ben voilà, justement, tokeniser finalement, c'est donner une valeur à travers à travers un asset virtuel. Hein, donc ça peut être une crypto-monnaie, un NFT, bah, voilà, un support, un smart contract ou un support virtuel qu'on va pouvoir faire accepter par un protocole qui est décentralisé. Donc ça a une importance parce que tout simplement, si on veut par exemple acheter des obligations d'État. Acheter de l'immobilier, peut-être faire intégrer la valeur bah, d'un support art, type un tableau ou quelque chose comme ça. On peut très bien finalement lui donner une contre-valeur virtuelle, donc on va le tokeniser, c'est-à-dire qu'en fait on va lui dire si cette dette d'État, ce bon du Trésor américain vaut par exemple 100 avec un rendement de 4,5%, et ben on va pouvoir dire bah écoutez moi j'achète en gros il va y avoir quelqu'un qui achète justement ce support-là et qui va l'intégrer dans dans le protocole et qui va donner une valeur identique à cet asset-là à travers un token. Voilà. En gros, c'est un peu ça le basique. Ce qui est
La
intéressant dans
tokenisation.
cette mécanique-là, c'est que finalement, on va pouvoir mettre dans. Il faut prendre un peu l'image d'une casserole. Voilà, on veut faire une cuisine, ça c'est la casserole, c'est le protocole. Et on va pouvoir mettre à l'intérieur de cette casserole un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre à la fois des bons du Trésor, que ce soit européen ou américain. On va
Ouais.
pouvoir mettre un programme immobilier qui soit basé en France, au Mexique, à Bali, à Dubaï, où on veut. On va pouvoir le mettre également dans cette casserole-là. On va pouvoir aussi intégrer, par exemple, bah, tout ce qui est finalement relié à une dette. Voilà. Quand on parle d'obligation d'État, c'est une dette. Quand on va parler de programme immobilier, il y a une relation à la dette. Tout ce qui va être pouvoir en fait tokeniser en tant que dette, on va pouvoir le ramener dans un protocole. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir composer une allocation de différents assets à l'intérieur de ça et qui va nous donner différents types de yield par rapport à différents types de risques. Voilà. Donc, soit on veut finalement être exposé uniquement à de la dette d'État, donc qui va se rapprocher de manière très proche à ce que fournit le livret A, c'est-à-dire que le livret A, il crée justement son yield à travers ses outils d'obligation. Et ben dans ce cas-là, on pourrait imaginer que dans le protocole, on va juste accepter de la dette d'État, on va la tokeniser, et finalement, en face, on va pouvoir avoir accès à ce protocole-là à travers justement à l'intégration ou l'acceptation de différents tokens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une composante importante puisque finalement, on sait qu'à travers les smart contracts et ces mécaniques de tokenisation, ben c'est très facile de pouvoir finalement amener dans ces récipients-là ben des assets réels comme le bon du trésor d'un pays ou d'une zone géographique, sans passer par le méli-mélo du marché centralisé, sans passer par différents intermédiaires de brokers, de gestion, y compris dans l'immobilier de notaires ou de choses comme ça. Ce qui fait que finalement, on va avoir un accès directement entre ce que produit finalement la dette et ce qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire le rendement de la dette sans qu'il y ait différents intervenants physiques et centralisés qui viennent manger un bout de la marge. Voilà. C'est ça tout l'enjeu finalement des real assets, c'est de finalement se dire aujourd'hui la technologie permet d'éviter d'avoir finalement une banque avec différents buildings, différents intervenants au téléphone et pour finalement devoir payer un certain nombre de salaires ou de cost of sales pour pouvoir fournir ce service de rendement. Et donc finalement on va optimiser, on va manger finalement sur cette marge-là pour pouvoir fournir un yield complètement et intégral à l'utilisateur final. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec ces protocoles, c'est que comme ils sont décentralisés à travers des mécaniques de blockchain, on peut voir aussi ce qui se passe à l'intérieur du protocole. Donc ça ajoute une couche de transparence et ça apporte aussi une couche de sécurité, puisque un protocole décentralisé appartient à une gouvernance qui est décentralisée et n'appartient pas à une institution privée ou une institution financière. Ce qui fait que si un jour, bah, telle banque ou telle gestion fait faillite, eh ben on n'est pas exposé à cette faillite-là puisque tout est décentralisé. Voilà. Donc ça augmente à la fois la couche de sécurité, la couche de transparence, et ça augmente finalement aussi le potentiel de rendement qu'on peut obtenir depuis ces dettes-là qui seront tokenisées. Et donc c'est tout l'enjeu de la blockchain et toute l'utilisation de la blockchain qu'on peut faire dans le domaine de la finance, puisque la blockchain a d'autres applicatifs. Mais en tout cas, dans la finance de marché, c'est ce que les géants bancaires essayent de faire aussi. En tout cas, ils se dirigent vers ça, c'est ce qu'on voit. Maintenant, le virage est entrepris de manière très lente parce que, bien sûr, on imagine bien que ben, tous les différents métiers qui aujourd'hui étaient nécessaires pour faire fonctionner le monde de la finance traditionnelle d'hier, finalement, il va y avoir une transformation, une transmutation un petit peu du secteur, et que eux, du jour au lendemain, ils ne peuvent pas bah, fermer des buildings, dire adieu à des
Bien sûr.
collaborateurs. Donc, il y a une transition technologique et aussi sociale et etc. qui est en train de se passer. Et donc, forcément, on va d'abord connaître bah, finalement des structures digitales comme Rain qui vont être en mesure de déployer tout de suite des choses parce qu'on est de manière native digitale, on vient finalement on est issu de cette génération-là. Et puis plus tard, tout doucement, le marché lui va tendre vers ces nouvelles technologies-là, va s'adapter, mais ça prendra sans doute quelques années avant d'avoir finalement des banques qui viendront interagir uniquement avec des blockchains par exemple. Mais le mouvement est en cours. Voilà. Et sur la partie IA, là où c'est intéressant, et là on revient plutôt plus sur la partie dont on parlait tout à l'heure par rapport au conseil et on va dire à la carence qu'on peut connaître aujourd'hui par rapport au conseil des banques ou de son banquier ou de son conseiller en banque par rapport à la manière de finalement construire intelligemment son épargne, c'est qu'aujourd'hui les IA sont en mesure de comprendre rapidement la nature de l'utilisateur, puisqu'on a un certain nombre de données par rapport à cet utilisateur-là, notamment s'il utilise par exemple une application comme Rain. Dans le futur, nous, ce qu'on veut intégrer, c'est comprendre quelle est sa capacité finalement financière par rapport aux différents questionnaires qu'on pourra lui proposer. Mais aussi, on a des récurrences de dépôts qui pourront être faits, par exemple, comme le salaire. Et donc, on voit un petit peu ces proportions à la fois de dépôt d'argent, de dépenses au quotidien et de sa capacité à mieux épargner. Donc nous l'IA telle qu'on l'imagine chez nous par rapport à ce conseil-là, c'est de lui dire à un moment donné, bon, on a un peu étudié de manière intelligente comment tu utilisais ton argent au quotidien. Si tu en, si tu euh, entamais ou si tu démarrais telle action telle que nous, on préfère te le proposer en termes de planification d'épargne, tu pourrais, à travers X mois, X semaines, X années, optimiser ton épargne de X montant. Voilà.
Du
Donc,
conseil intelligent.
donc on sait très bien que, par exemple, une personne X qui a 20 ans, eh ben, peut-être elle va avoir un besoin de financement pour une voiture, elle va avoir besoin bientôt d'avoir un financement peut-être pour un apport immobilier. Et ce n'est pas le même conseil qu'on va apporter à quelqu'un qui a peut-être 50, 60 ou même 65 ans, qui a, elle, déjà réalisé une partie de sa vie et qui n'a pas les mêmes,
Bien
on
sûr.
va dire, ambitions, ou du moins pas
Objectif.
les mêmes objectifs. Voilà. Donc l'IA, elle est là pour comprendre un petit peu, pour situer un petit peu les objectifs de chacun, et elle va orienter de manière intelligente. Elle va faire des propositions finalement intelligentes
En
pour
gestion de
l'utilisateur
l'investissement.
en fonction de ce qu'il désire faire. Donc, l'idée, ça serait d'avoir quelqu'un qui arrive dans l'application, par exemple bah, chez nous, et qui nous dise, voilà, j'ai un besoin finalement bah, d'épargne un petit peu pour mes sorties, pour mes vacances, qu'il va falloir que je planifie cette année. Et puis, c'est vrai que on est en couple, on va peut-être avoir un enfant, donc il va falloir préparer aussi l'arrivée de cet enfant-là. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec notre enfant? Et il va falloir financer les études de demain. Donc, tout ça, c'est des thématiques dans lesquelles nous, on a envie de rentrer, puisqu'on va dire, bah voilà, il va falloir déjà séparer un petit peu les différents objectifs. Et par rapport à ces différents objectifs-là, on ne va pas mettre les mêmes couches, finalement, d'outils dans les protocoles, puisque on sait très bien que si on construit l'épargne pour un enfant, et ben dans ce cas-là, on va plutôt proposer un mix à travers les protocoles où on va avoir un peu plus d'exposition à du risque. Mais quand je dis du risque, c'est avoir du rendement issu, par exemple, du Bitcoin, du mining, où on sait qu'on va pouvoir finalement lisser la volatilité du sous-jacent sur du long terme. Et donc, à la fois, on va lisser la volatilité, c'est-à-dire qu'en fait, on va réduire le risque sur les années, puisqu'on a le temps d'aller à l'objectif on va dire d'épargne. Et donc, on s'en fout finalement qu'il y ait 30 ou 40% de volatilité sur l'asset, par exemple, puisqu'on sait que l'argent n'a pas besoin d'être disponible dans les 3-4 prochains mois. Donc, on sait très bien qu'on peut lisser comme ça la volatilité. Et donc, on composera finalement l'épargne. C'est un petit peu à la manière d'un fonds, mais
Le
on pourrait
projet.
composer dans des protocoles, finalement, des allocations qui soient intelligemment pensées par rapport à l'objectif de duration de l'utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est toute cette logique-là que finalement les gens attendent de leur conseiller bancaire, mais qu'ils ne trouvent pas. Voilà. Donc nous, on sait qu'on peut arriver à avoir des économies de coûts et être beaucoup plus efficient dans une proposition de valeur telle que l'IA sur la partie conseil. Et après, on va être beaucoup plus efficient aussi à travers l'utilisation des blockchains et demain de la tokenisation de tous ces assets réels pour pouvoir proposer un rendement intéressant. Aujourd'hui, je pense que si quelqu'un veut s'exposer sur un bien immobilier au Mexique tout en étant exposé sur de la dette obligation américaine, ce n'est pas en appelant Boursorama ou son conseiller qu'il va trouver finalement quelque chose de facile à utiliser. Voilà, donc
C'est
il va
sûr.
plutôt aller tout de suite vers dire, bon, bah, finalement, j'ai un livret A, je vais le placer. Bon, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as atteint le plafond? Ah, bah, quelqu'un m'a dit d'acheter ça, alors j'achète ça. Et puis, finalement, personne ne sait vraiment ce qu'il fait et ni quand il aura besoin de l'argent.
Ouais,
Donc,
d'accord.
c'est vers ça qu'on essaye de tendre. Et je pense que les technologies qui arrivent, elles vont arriver à livrer finalement des produits ultra simples à utiliser. C'est un petit peu comme Tesla et la voiture électrique. Finalement, bah, on a une voiture, tout est simple, c'est là. Et puis, c'est ce qu'on veut finalement. On ne veut pas plus se prendre la tête que ça.
Donc du coup, ouais, voilà, donc encore pas mal d'informations avec la blockchain, l'IA, etc. On a entendu des mots comme le yield, la décentralisation, etc.
Ouais.
Donc ce qu'on peut, là, pour faire un petit résumé et pour vulgariser un petit peu ce que Jean vient de nous expliquer, parce qu'on a peut-être perdu la moitié quand même des auditeurs, parce que Jean il va tout droit et il va dans le technique, parce qu'il est du domaine. Donc ce qu'on peut dire, c'est que voilà, avec l'intelligence artificielle, ça sera en fait un module qui sera en mesure d'analyser des données et comme un conseiller en investissement. Voilà, c'est
Voilà,
grâce
c'est
à
ça.
l'IA où en fait l'IA, on se dit qu'elle est plus pertinente que nous, que l'humain,
Exactement.
pour pouvoir analyser les données.
Ouais.
Donc elle sera sûrement plus performante que le banquier pour pouvoir vous dire, OK, selon votre âge, selon différents critères, il serait bon, judicieux de pouvoir attendre dans cette optique d'investissement, dans cette optique d'épargne. Voilà, c'est
Exactement.
ce en quoi en fait l'IA peut aujourd'hui améliorer en fait l'existant. Voilà.
Exactement.
Et après sur la blockchain, c'est un petit peu plus technique, mais c'est comme voilà, ça ouvre de, bon, tout d'abord, ça réduit le nombre d'intermédiaires. Jusque-là, Jean l'a expliqué, ça réduit le nombre d'intermédiaires, donc ça réduit les coûts. Simple. Ensuite, ce qui permet de faire, c'est que on va pouvoir, aujourd'hui, on veut acheter un appartement, ben, c'est difficile d'acheter un appartement avec 150 personnes. Mais si demain, on fractionne cet appartement grâce à la blockchain et les smart contracts, donc
Exactement.
en fait, un smart contract, c'est une fonction Excel qu'on vient écrire dans un bouquin. Voilà. Et on va écrire dans ce bouquin, une fraction de cet appartement vaut 1 000 euros. Et on divise le prix de l'appartement par 1 000, ce qui nous donne en fait le nombre de tokens, le nombre de parts en fait, et le nombre de parts qui seront inscrites dans la blockchain. La blockchain est immuable, est transparente, comme le disait Jean, et sécurisée. Donc ça nous apporte une
Exactement.
couche de transparence, de sécurisation qu'aujourd'hui on n'a pas, qu'aujourd'hui on n'a pas. Et ça réduit les intermédiaires. Donc en fait, nous, simplement, on peut s'adosser à de la tokenisation immobilière. Il y a d'autres tokenisations qui existent grâce à la blockchain en réduisant le nombre d'intermédiaires, ce qui permet de faire augmenter donc le yield, en gros le rendement de votre investissement ou de votre épargne. C'est
Exactement.
ce à quoi la blockchain peut, ben, je ne vais pas dire demain, mais aujourd'hui répond, mais en gros, demain, révolutionner la finance traditionnelle d'aujourd'hui.
Exactement. C'est très
Et
bien dit. C'est très bien dit.
voilà. Ben, j'essaie de vulgariser parce que je sais que ce n'est pas toujours facile, voilà, de comprendre un petit peu toutes ces nouvelles technologies, les nouveaux mots, les mots techniques. Ce n'est pas du plus simple. Et quand on parle d'argent, quand on parle d'épargne, ben, on aime quand même bien dire, OK, C'est bizarre d'avoir des nouveaux mots associés à notre argent. On n'est pas toujours. Voilà, on est un peu frileux. Donc, il faut savoir expliquer avec des mots simples
Exactement.
et ce vers quoi on va. Mais moi, j'ai une petite question, c'est à dire, ben, pourquoi aujourd'hui, ben, notre banquier, il ne travaille pas avec la blockchain si, il ferait plus d'argent? La banque, elle ferait plus d'argent avec la blockchain. Pourquoi ils ne l'ont pas encore
Bah,
implémenté? Pourquoi ils ne le proposent pas?
ce
Pourquoi?
virage-là, ce virage-là est en train d'être pris, mais c'est lent et pour les raisons que j'ai évoquées ultérieurement, c'est-à-dire que finalement, les banques, pour l'instant, n'ont ça engage ça engage des restructurations et des mécaniques complètement à l'opposé de comment ça a été construit jusqu'à présent. Donc, il faut qu'elles s'adaptent. Il y a un virage technologique massif et surtout, pour l'instant, il y a aussi une autre problématique qu'on n'aura pas le temps forcément de développer aujourd'hui, mais on pourra le faire ultérieurement. Mais par rapport à la régulation, c'est qu'aujourd'hui, à la fois les banques qui s'appuient aussi sur les régulations pour pouvoir proposer leurs services, aujourd'hui, les régulations sont un petit peu en retard. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a plein de jeunes innovants, développeurs, un petit peu à l'image de Vitalik ou de choses comme ça,
Les
qui ont
startups.
finalement qui ont créé des nouveaux systèmes de protocoles et finalement les banques, les régulateurs ont regardé ça de loin, n'y ont pas cru au départ et maintenant finalement ça commence à s'adopter donc il va falloir qu'ils passent à ces technologies-là. Mais finalement tout le monde est en retard puisque comme c'est de la gouvernance régalienne la plupart du temps et que c'est des gouvernances très lourdes, il faut quand même à la fois enclencher bah, les gouvernements, les différents gouvernances type des banques centrales. Il faut mettre autour des tables des gens qui étudient les sujets et qui étudient les régulations pour requalifier un petit peu les activités. Donc tout ça demande du temps. Souvent, ils ont un train de retard par rapport à la technologie, alors que souvent, les jeunes technologies, surtout les jeunes acteurs de l'écosystème, eux, ce qu'ils veulent, c'est foncer. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu toujours l'angle de bataille entre aller trop vite et amener des technologies et des nouvelles perspectives sur la table. Mais en même temps, il faut que la régulation soit alignée. Donc, parce qu'à la fois, ça peut être bénéfique d'apporter des nouvelles technologies parce qu'on peut en bénéficier, mais on a vu que sur les 2 dernières années, pendant ce winter market, là, bah, ce winter crypto winter, on a vu aussi différents scandales, que ce soit Luna, FTX, parce que justement,
On a
il y
besoin
avait
de la régulation.
des mastodontes se sont développés sans régulation, donc ce qui veut dire sans protection des utilisateurs, et que derrière, bah, quand ça se passe pas bien, bah derrière, eh ben, y a pas de réponse. Donc ça, c'est pas possible, surtout quand on parle d'argent, il faut qu'on ait une régulation qui soit alignée. Nous, chez Rain, en tout cas, on travaille main dans la main avec des cabinets d'avocats comme DNA Partners, mais aussi on est à l'écoute de ce qui se passe sur le plan européen. On se prépare à la régulation de MiCA pour l'année 2025 en allant chercher l'agrément MiCA. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail parce que à la fois les régulateurs ne nous donnent pas on va dire des notes claires sur qu'est-ce qui va se passer. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Donc on essaye d'anticiper, nous, comment proposer des produits innovants tout en restant dans les clous de la régulation. Ça, c'est vraiment, pour nous, on n'ira jamais au-delà de ça, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, on veut aussi être prêt en temps voulu. Et puis, comme on est une start-up et qu'on développe des produits innovants, on a besoin aussi d'être commercialement efficace. Il faut qu'on puisse continuer, nous, à développer nos produits. Donc, c'est tout l'enjeu, finalement, du pilotage d'une entreprise comme Rain. C'est de se dire, voilà, nous, on veut être en amont un peu de l'innovation pour être au top de l'innovation. Mais en même temps, il faut qu'on soit vigilant sur le plan compliance pour qu'on puisse finalement de manière conforme respecter les lois et ce qui doit se passer sur le la point de vue de la régulation. Et c'est ce qu'on veut faire puisque nous, ce qu'on souhaite livrer, c'est un produit utilisable qui protège l'utilisateur et qui soit en accord avec les régulations actuelles. Donc on le verra l'année prochaine. Il y a un gros chapitre régulation qui arrive avec MiCA. Il va y avoir beaucoup de changements, que ce soit sur les stablecoins, que ce soit sur le stacking, sur le farming. Il y a des choses qui vont être interdites. Il y a des choses aujourd'hui qu'on peut faire qui seront plus possibles demain. Et même au niveau des stablecoins, il faudra que les personnes qui issuent des stablecoins soient agréées MiCA. Donc, on pourra se poser la question de comment ça se passait, par exemple, pour le Tether, pour Circle. Voilà, toutes ces entreprises-là vont devoir aussi s'aligner avec les régulations européennes. Et donc, on va avoir forcément un changement du paysage. Il va y avoir des pratiques qui ne se feront plus, qu'il y en a des nouvelles qui vont arriver. Et donc, il faut se préparer à ça. Et c'est ce que nous, on essaye de faire, en tout cas chez Rain. Voilà.
Bah super. Et du coup, moi, je voulais un peu poser une question, un petit peu pour Monsieur Tout le Monde. Demain, moi, je veux m'adosser. C'est super, la blockchain, la tokenisation, ça a l'air cool. On réduit les intermédiaires. En plus, moi, je gagne plus d'argent. Bon, bah, concrètement, je fais quoi? Qu'est-ce que je dois faire?
Eh ben,
Où c'est que je
nous.
vais? Parce que mon banquier, il va pas me dire, oh, bah oui, allez-y, je vais vous donner plus d'argent, il va me donner accès juste à mon livret A. Donc, comment moi j'ai accès à ça? Comment je régule mon risque, hein, parce qu'il ne faut pas aller à droite et à gauche parce qu'on rappelle qu'il y a des scams un petit peu partout dans l'écosystème des cryptos, donc soyez vigilants. Mais voilà, comment on accède en fait à ce type de produit un petit peu novateur?
Ben justement, c'est une mission très difficile parce que nous, finalement, on est une entreprise tech à la base, hein. Nous, on essaie de vouloir créer de l'innovation par la tech. Donc, on est très fort là-dedans. Maintenant, au-delà de cette mission de créer de l'innovation dans la partie ingénierie financière et technique, on se retrouve en plus avec des missions qui sont compliquées, c'est-à-dire éduquer les personnes vers ces nouvelles technologies. Donc, c'est énormément comment dire, de coûts et de temps marketing à mettre en place pour emmener les gens avec nous dans cette aventure-là. En plus de ça, on est obligé de main dans la main avec les régulateurs de travailler, d'imaginer aussi les schémas légal compliance pour pouvoir être en mesure de diffuser ces produits-là. Donc, on nous aide pas. Je veux dire, il n'y a pas un plan qui est déjà prévu. C'est un petit peu comme des pionniers. On avance dans une zone qui est pour l'instant encore noir. Nous, on sait sur le plan technique comment faire fonctionner les choses, mais par contre, on n'a pas forcément toutes les réponses d'un point de vue légal. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément évident parce qu'on est obligé à la fois d'essayer d'éduquer, de convaincre les gens vers ces technologies-là, mais en même temps, on n'a pas une défiance, mais on a un frein finalement du vieux marché, de la vieille finance traditionnelle, qui a
Traditionnel.
plus de facilité à dire ah, attention, c'est dangereux ou n'allez pas parce que finalement, eux sont pas en capacité de proposer ça. Donc ça, c'est un petit peu la chose facile à faire, mais on le voit tous les jours sur les différents intervenants, même de différents directeurs de banque ou de différents, on va dire, personnes issues des gouvernements et autres, qu'ils ont souvent la facilité de dire oui, bah non, c'est dangereux, alors que finalement, bah même si on parle des différents ETF qui ont été listés récemment par la SEC, 2 ans, 1 an avant justement l'approbation de la SEC de ces ETF Bitcoin, bah les principaux intervenants comme BlackRock disaient ouh là là, attention, n'allez pas, ne le faites pas. Et puis finalement, maintenant qu'ils sont régulés et qu'ils peuvent lancer un business, ils te disent oui, forcément, ça fait du sens. Donc on est un peu dans cette dynamique-là, donc c'est un mouvement qui prendra du temps. Et en tout cas, bah, comme par exemple d'autres applications comme Revolut, N26 ou autres ont réussi à disrupter un petit peu la partie utilisation de l'argent au quotidien à travers la dépense, c'est-à-dire que tu as une banque intermédiaire pour pouvoir dépenser ton argent, c'est beaucoup plus facile à utiliser qu'une banque traditionnelle sur certaines fonctionnalités. On aura la même chose sur la partie placement et épargne, et c'est dans ce créneau-là que Rain se positionne, mais c'est vrai qu'il y a une mission d'éducation, une mission de diffuser le message qui n'est pas forcément évidente, puisque quand on parle de technologie blockchain, IA, on rentre quand même dans des degrés, faut mentaliser un petit peu les schémas, et c'est vrai que c'est quand même relativement compliqué parfois pour quelqu'un de comprendre les mécaniques, mais je trouve que de la manière dont tu l'as présenté juste avant, c'est relativement bien vulgarisé, et c'est un petit peu dans cette logique-là. Peut-être moi, à mon niveau, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, quand on achète un appartement, on a besoin de passer par un notaire pour asseoir la personne A, le vendeur, et la personne B, l'acheteur, et de devoir finalement déposer un certain nombre bah, de bah, il faut déposer un chèque chez le notaire pour pouvoir finalement valider et conserver une trace historique de cette transaction-là en cas de conflit, et puis pour faire une relation aussi avec le fisc et puis le ministère des Finances, quelque part, la mission du notaire, elle est là. Mais cette mission-là, aujourd'hui, elle est remplie par ce que tu disais, un smart contract. Et finalement, on pourrait très bien imaginer demain passer devant la pancarte à vendre ma maison avec un QR code, scanner ce QR code-là, et en 5 minutes, même pas en 2 secondes, on pourrait avoir une intelligence artificielle qui viendrait dire, vous avez la capacité d'acheter cet argent-là, voulez-vous? Oui, je la veux. Et finalement, en 2 secondes, on a un smart contract qui dit, ce contrat de propriété est transféré de A à B via la blockchain, et en 2 secondes, on a acheté la maison. Voilà, et sans passer
Exactement.
par toutes ces démarches-là. Voilà, donc c'est un petit peu ça, la finance de demain, les transactions de demain. Et donc nous, on est là pour construire cet écosystème-là et pour y participer activement. Mais on a des contraintes aujourd'hui, on va dire, de latence à la fois de régulation et
Réglementaire,
puis aussi dans les consciences, dans les modèles des gens. C'est très compliqué quand il y a une relation à l'argent ou au bien
voilà,
immobilier
c'est pas si
de
facile.
digitaliser tout ça. C'est une passation de génération qui est en train de se faire, et on comprend, nous, que aujourd'hui, les réponses face à, par rapport au risque, tout ça, ça puisse engendrer certaines angoisses parce qu'on rentre dans une inconnue, alors que pourtant, ces technologies-là sont pourtant là pour répondre à un degré de satisfaction, de
Un
transparence et de
besoin.
sécurité
Un
nettement
besoin
plus
qui
élevé que
existe.
ce qui existe aujourd'hui.
Tout à fait. C'est sûr. Bon ben Jean, je pense qu'on a dépassé un petit peu le chrono là, mais bon, on avait des choses intéressantes à dire. Je
Bien
pense
sûr.
que on a réussi un petit peu notre mission de répondre à ces problématiques en quoi la blockchain et l'IA peuvent demain révolutionner ou du moins performer les solutions d'épargne qui existent dans la finance traditionnelle. On n'a pas eu
Exact.
le temps totalement comment dire, de développer cet aspect de régulation, d'autant plus que MiCA sera en place sur l'année 2025. Mais on s'est dit ensemble qu'on allait faire un épisode 2 au sujet de la régulation. Donc ça
Exactement.
serait peut-être, voilà,
En tout cas,
ça sera peut-être.
à ce sujet-là, et c'est là où c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur la partie PSAN, les gens, bah, genre les sociétés qui ont obtenu le PSAN, ceux qui sont sur le PSAN, on va dire un peu plus renforcés, etc. Nous, en tout cas, on est déjà en train de travailler activement sur l'agrément PSAN, puisqu'on veut justement faire partie du premier wagon d'entreprises qui font partie justement des entreprises agréées, MiCA, pour pouvoir justement prétendre à être actif sur le plan financier, en tout cas pour l'année 2025. Donc, c'est
Ok.
un gros, gros, gros boulot et on sera ravis de
Gros challenge.
participer à un volet 2, notamment avec peut-être la participation de Benjamin Messica qui a rejoint les équipes de Rennes récemment. Et en tout cas, nous, on est très, très bien positionnés sur ces sujets-là. Ce n'est pas moi l'expert de la régulation, je suis plus sur l'ingénierie financière, mais en tout cas,
Ok.
avec plaisir pour répondre à toutes les questions qui concernent la régulation en Europe par rapport à MiCA. Je pense que c'est un sujet ultra passionnant et intéressant puisque ça va vraiment changer tout l'univers qu'on connaît aujourd'hui sur la partie crypto. Voilà. Donc,
Oui, tout à fait. Puis c'est pas
voilà.
toujours facile d'avoir accès aux informations, c'est pas toujours facile de savoir le vrai du faux, comment ça fonctionne, etc.
Exact.
Comment s'y préparer quand on est l'utilisateur. Donc ce sera une bonne welcome pour venir parler de ça et de nous décrire un petit peu voilà, vos démarches, de comment ça se passe à l'intérieur, de quand on est justement certifié ou agréé, je ne sais pas exactement le mot qu'il faut utiliser
Assez
exactement, ça
agréé,
se
ouais.
passe.
Agréé. Pour
Agréé, voilà.
l'instant, c'est soit un enregistrement pour ce qui concerne les actifs numériques, donc en détente custody ou en échange de crypto fiat, crypto. Et demain, ça sera l'agrément. Voilà, l'agrément, il
D'accord.
faudra être agréé. Donc là, c'est quand même un niveau supplémentaire de régulation. Et c'est très bien que ça se passe comme ça, puisque ça va permettre vraiment d'apporter des réponses en termes de sécurité et de transparence pour les utilisateurs. Donc, ça facilitera forcément la conversion du monde, on va dire, traditionnel de la finance vers le monde de demain. Et je pense que tout le monde en a besoin. Donc, nous, on attend cette upgrade des régulations avec impatience, en tout cas.
Impatience. Ok, eh ben écoute Jean, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Welcome pour le volet numéro 2. On ne sait pas quand c'est qu'il aura lieu, mais il aura lieu au courant de l'année 2024. On vous remercie tous. Merci Jean d'avoir été avec nous ce soir. Et puis
Merci.
à bientôt.
Allez, à bientôt. Merci.